Mann,
Nathalie Mann
et Solef
explorent une thématique
au travers de la poésie et de la musique
tous les troisièmes lundis du mois de 20h à 21h
sur la clé des ondes 90.1. Le temps perdu. Devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste. Et comme il se retourne et regarde le soleil, tout rouge, tout rond, souriant dans son ciel de plomb, il cligne de l'œil familièrement. « Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron ?» Lorsque je suis parvenue sur orbite terrestre, j'ai eu aussi l'impression de renaître à la vie, de savoir enfin ce qu'est la vraie vie, la vraie lumière, généreuse, omniprésente et sensible. La lumière venue de lointain soleil enveloppe véritablement toute chose. Dans l'espace, la lumière est totale, absolue. Les écrans et filtres qui nous protègent de sa trop impétueuse vivacité, s'ils mettent un frein à ses dangers, ne parviennent toutefois pas à atténuer sa spontanéité, sa magnificence. À la surface de la Terre ou dans un avion, le soleil et les étoiles sont véritablement ternis par l'atmosphère. Dans l'espace, les feux sont crus. Ils irradient comme de somptueuses pierres précieuses. Mais avec cette aura d'universalité en plus, qui lui confère le pouvoir formidable de faire découvrir le moindre détail. Je pense que Georges de la Tour est sans conteste celui qui aurait pu le mieux traduire dans un tableau en deux dimensions la richesse exceptionnelle de cet univers en trois dimensions, s'il avait vécu à notre époque. Mais peut-être n'aurait-il pas peint alors. Prenons par exemple Saint-Joseph le charpentier. On y voit le Christ enfant, à droite, éclairer le travail de son père par une bougie dont la flamme est voilée par sa main gauche. Si la lumière solaire est des milliards de fois plus intense que celle irradiée par la bougie, elle fait subir aux planètes et aux choses qui sont exposées le même traitement en clair-obscur. Des plages brillamment éclairées voisinent avec des ondes sombres, très tranchées. Que voit-on dans l'espace? Tout sur la lumière crue du soleil, rien dans l'ombre profonde. D'abord, il y a les étoiles. Ces myriades de points colorés parsèment le ciel comme un poudroiement infini. Nulle texture ne peut être identifiée par le regard, mais leur agencement saute littéralement aux yeux. Même les nuits les plus pures des océans de sable que sont le Sahara ou le désert du Nevada ne peuvent traduire l'immensité de ce fleuve qu'est la Voie lactée. Ces points ne scintillent pas, c'est un phénomène qui est provoqué uniquement par les mouvements de l'atmosphère terrestre. Elles brillent simplement, avec la limpidité que confère l'absence apparente de tout obstacle naturel entre elles et nous. Si ce n'est la poussière qui transforme quelque peu la lumière émise. La lumière est l'espéranto de l'univers, la langue commune à tous les mondes qui l'abritent.
Into my life.
Bonsoir Sol.
Bonsoir Nathalie.
Et bonsoir à tous les auditeurs. Le texte que je viens de lire est le récit d'un astronaute, Patrick Baudry, qui s'embarqua sur le Discovery. Tu sais Sol,
oui.
En 2007, j'étais jury junior du festival Jules Verne Aventure grâce à un concours de nouvelles sur l'écologie.
D'accord.
Et j'avais rencontré alors un astronaute, Jean-François Clairvoy. Je ne sais pas si tu vois qui c'est.
Non, pas du tout.
Il a voyagé au bord de l'Atlantis et du Discovery. Et alors que nous étions tous autour de lui, un soir, un jeune homme plus âgé que moi lui posait des questions précises. Je trouvais cela si loin de ma réalité que je m'y intéressais pas trop, vraiment à moitié. J'étais tellement préoccupée par ma réalité d'étudiante que la réalité de l'espace me passait vraiment, on va dire, au-dessus. Mais j'ai quelques regrets aujourd'hui et je me demande, tout peut-il vraiment se voir à la lumière ? Vous écoutez l'émission ici même de Sol
et Nathalie Mann.
Jusqu'à 21h sur la clé des ondes 90.1. L'émission ici même sera en rediffusion ce samedi de 23h à minuit. Nous parlons aujourd'hui de lumière avec Nicolas.
Alors je me présente, je suis Nicolas Carati, je suis non-voyant. J'ai 45 ans et je travaille au Musée d'Aquitaine en tant que médiateur culturel. Alors moi je perçois la lumière aujourd'hui essentiellement par des notions de chaleur, par exemple le soleil, hein, entre autres, quand il brille ou quand il est masqué par des nuages, par des éclairages puissants aussi éventuellement qui peuvent être dans des lieux, et là aussi on a plutôt tendance à avoir des rayonnements de chaleur. Après il y a aussi d'autres moyens de s'approprier la lumière, c'est la réaction des gens. Les gens n'ont pas du tout les mêmes réactions en plein jour et en plein soleil qu'au milieu de la nuit. Et c'est très très flagrant. Et on a voilà, une activité qui est beaucoup plus dense en journée. Bon, on le côtoie tous hein, dans nos vies quotidiennes. Et des calmes et des gens beaucoup plus posés la nuit parce que ça s'y prête un peu plus. Oui, alors j'ai moi une représentation en tout cas de... pas vraiment du noir. Ça c'est un peu particulier. J'ai vu, et j'ai un œil qui a vu, un œil qui n'a pas vu. Donc l'œil qui n'a pas vu, la partie du cerveau qui est chargée de le gérer est totalement incapable de concevoir une couleur, une image. C'est quelque chose qui n'existe pas. Puisque ça n'a jamais fonctionné en fait. Donc il n'y a pas de connexion, enfin je l'explique comme ça, moi il faudrait demander à des neurochirurgiens ce qu'il en est, et à des psychologues aussi peut-être, ou psychiatres, mais voilà, il n'y a rien, c'est le rien. C'est même pas le noir, c'est rien. Puisqu'il y a une existence totale, une inexistence totale de la conceptualisation de l'image ou de la couleur. L'œil qui a vu, lui, ce qui se rapprocherait le plus de ce qui se passe, c'est une mosaïque de couleurs, on va dire, hein, sans que ça soit ni organisé de façon géométrique, ni structuré, ça bouge en permanence. Il y a plutôt des taches de gris, de blanc, un peu de noir, et puis au milieu de tout ça, des taches ou flocons de couleurs. Voilà, qui varient au fil du temps. Hein. Alors, si j'y pense, forcément, les choses changent. mais voilà. Donc, il y a vraiment deux choses. J'ai conceptualisation de l'image et de la couleur, et pourquoi pas de la lumière aussi, que de l'œil droit, puisque c'est celui qui a vu, pas beaucoup, mais qui a vu suffisamment pour avoir ces notions-là, en tout cas. Alors, la lumière, moi, je l'associe à l'équilibre. Parce que voilà, mon expérience fait que je remarque que les gens sont quand même mieux dans des zones lumineuses. Voilà, et donc quand j'ai retravaillé mon échoppe bordelaise, j'ai fait rentrer énormément de lumière dans toutes les pièces. Parce que je trouve qu'on a absolument besoin de lumière. Voilà. Et qu'il n'y a rien de tel et en plus que la lumière naturelle, autant que possible. Voilà. La lumière, j'associe aussi à c'est vrai qu'en ce moment, dans cet envahissement de nuages et de grisailles, dès qu'il y a un rayon de soleil, ça fait énormément de bien. Enfin, je veux dire, ça rentre au plus profond de soi. On est très interconnecté avec cette lumière, en fait. C'est instinctif, hein. Je pense que c'est juste qu'on en a réellement besoin. Mais je vois bien, moi, que Tout à l'heure, on rentrait, il y avait un rayon de soleil, mais on a pris le chemin lumineux. On n'est pas passé sur la rue qui était la plus à l'ombre, on a pris celle qui était la plus ensoleillée. On voit très vite aussi les changements de rythme, ça c'est une réalité. Je faisais des balades samedi en ville, on sortait à des moments où il pleuvait un peu et c'était grisouille, et c'était très très calme. Dès qu'il y a eu le moindre rayon de soleil, ça y est, tout le monde est ressorti. Enfin, c'est, le cerveau reptilien doit fonctionner très vite là-dessus, et on est vraiment on a tendance à jouer au tournesol. Enfin voilà, cette fleur qui passe son temps à chercher le soleil et à s'orienter vers ce soleil, semble-t-il. On a tendance un peu à faire ça, je crois, et à le faire très vite. Hein.
Comment tu perçois ce rapport, cette dualité entre l'ombre et le sol, enfin, et la lumière ?
Mais je pense que cette dualité, elle vient tout simplement de l'excès, probablement en tout cas. Parce que l'été, il y a tellement de lumière et tellement, en plus de la chaleur, et là, c'est vrai qu'on cherche aussi un peu la fraîcheur à travers l'ombre. Il y a tout un jeu aussi qui s'instaure sur... et qui s'installe sur la forme de l'ombre, l'image qu'on renvoie à travers son ombre, enfin, je fais disparaître mon ombre, on joue vraiment avec ça, enfin, c'est caractéristique de l'été, et on voit bien les gamins qui jouent avec ça énormément, enfin, voilà, on peut s'orienter pour la faire grandir, rétrécir, rapetisser, enfin, c'est assez fabuleux. Mmh. Et ça me rappelle vraiment une belle expérience d'une visite à la Cité des Sciences à la Villette. Mmh. Ils avaient fait une exposition sur la lumière, justement. Mmh. Et donc ils avaient fait une salle blanche où il n'y avait pas d'ombre, pas moyen d'avoir d'ombre. Mmh. Donc ça, c'est très surprenant, semble-t-il, quand on voit. Enfin, les gens qui étaient avec moi, c'était ça. Et pour nous, ils avaient retranscrit des objets en 3D. Et avec une lampe, ils avaient fait des formes en caoutchouc pour nous montrer les formes et l'ombre qu'on pouvait créer en éclairant l'objet de telle ou telle façon. Et c'était quelque chose d'assez fabuleux, parce que ça aussi, un non-voyant, au final, s'il est aveugle de naissance, il n'a pas de connaissance de cette ombre qui se déforme. On peut ressembler à Avril ou à Joe Dalton, par exemple, d'un seul coup. Pourtant, c'est le même corps qui est... Et donc, c'était assez fabuleux. Avec une lampe, voilà, on arrivait à expliquer, grâce à ces formes en caoutchouc, la forme de l'ombre qu'on générait en fonction du positionnement. C'était absolument génial, en fait. On le voit bien, je veux dire, il est impossible d'avoir une pièce noire aujourd'hui en ville. C'est pas possible. Dans notre intérieur, il suffit de regarder, on a l'impression d'être dans le noir, mais on n'est jamais dans le noir. Il y a la diode de je ne sais quel appareil électrique, les chiffres du radio-réveil, l'écran du téléphone, la loupiote de la multiprise, enfin, ça n'arrête pas, et il y en a partout. Et c'est vrai qu'on a, d'une certaine façon, je pense, une vraie crainte du noir, en réalité. Il n'y a qu'à voir comment on éclaire nos enfants grâce à tout un tas de lucioles aussi, peluches et consorts, pour qu'ils ne soient pas réellement dans le noir. Et effectivement, on voit qu'en général, les gens ont tendance à, dans nos cultures en tout cas, vraiment aller plutôt vers la lumière. Ça, c'est une réalité.
Mais pourquoi ? Et t'en penses quoi, toi, de ça ?
Je sais pas, je crois qu'il faut un peu s'en prémunir. Bon, alors moi forcément, si je fais le parallèle avec l'écran de mon téléphone portable, moi il est dans le noir, mais c'est pour des raisons d'économie de batterie et qu'au final il a plus d'utilité. Mais c'est vrai qu'on est extrêmement sollicité par la lumière. Et au final, ce noir, quand il est vraiment total, et si on n'est pas ni claustrophobe, ni stressé par ça, c'est un moyen extraordinaire d'abord de s'intéresser à des choses autrement, et puis aussi de se poser et d'être vraiment perturbé par rien du tout. Ici au musée, il nous arrive de faire des expériences parfois de découverte d'œuvres dans le noir, ou un noir très proche en tout cas, parce qu'on a toujours nous aussi nos petits problèmes de lumière, mais on arrive à des choses très proches du noir, et on voit aussi que le rapport aux gens change, le rapport aux objets et aux œuvres change, et donc ce noir au final il n'est peut-être pas si effrayant, et l'ombre ou le noir c'est peut-être pas non plus des choses insurmontables, et ça peut peut-être même être apaisant dans certains cas. Mais on est très angoissé culturellement par ce noir, parce que dans le noir il y a le... je sais pas, mais il y a dans les contes pour enfants il y a le loup dans le noir, il y a le fantôme, il y a le monstre. C'est quand même comme ça qu'on le véhicule, le noir.
La saleté, le noir.
La saleté, le pouvoir aussi, ça peut peut-être faire peur à des gens. Les gens de pouvoir sont très souvent habillés dans le noir. Enfin, dans l'histoire, en tout cas, ça a souvent été le cas. C'est parfois le diable, c'est parfois... Voilà, il a plein de... Enfin, il a une sale image quand même à ce noir. Ben, c'est une mythologie hein, qu'on a transmise, qui a été reprise par différents conteurs, écrivains. On se fait toujours assassiner dans le noir, c'est rare que ce soit en pleine lumière. Enfin, et on la retrouve toujours, cette noirceur, cette peur du noir. Enfin, le vampire, il est dans le noir. Enfin, et c'est des trucs pas sympathiques dans le noir en général. C'est très rare d'avoir des rencontres sympathiques dans le noir. Et ça, c'est quand même quelque chose, je pense, qu'on traîne depuis longtemps. Enfin, peut-être depuis le temps des cavernes, je ne sais pas à quel moment ça commence, mais on voit bien aussi que c'est Michel Serres qui a fait des expériences de vivre dans le noir pendant des temps fous et longs, et qui montrait qu'on se décalait aussi, que son rythme changeait, que son cycle de vie changeait, parce qu'on n'est plus en alternance jour-nuit. Il y a beaucoup de paramètres qui interfèrent et qui entrent en résonance, en tout cas, je pense, avec ce rapport qu'on a à la lumière, à la couleur, et notamment au noir, qui est peut-être une des couleurs avec le rouge qui est la plus marquante, enfin, qui reviennent très souvent, en tout cas.
Japonaise, le vent du toit avant si loin, cela est dû au climat, aux matériaux de construction et à divers autres facteurs sans doute. À défaut par exemple de briques, de verre et de ciment. Il aura fallu, afin de protéger les parois contre les rafales de pluie latérales, projeter le toit en avant, si bien que le japonais, qui eût certainement préféré lui aussi une pièce claire à une pièce obscure, a été de la sorte amené à faire de nécessité vertu. Mais ce que l'on appelle le beau n'est d'ordinaire qu'une sublimation des réalités de la vie. C'est ainsi que nos ancêtres, contraints à demeurer bon gré malgré dans des chambres obscures, découvrirent un jour le beau au sein de l'ombre. Et bientôt, ils en vinrent à se servir de l'ombre en vue d'obtenir des effets esthétiques. En fait, la beauté d'une pièce d'habitation japonaise, produite uniquement par un jeu sur le degré d'opacité de l'ombre, se passe de tout accessoire. L'occidental, en voyant cela, est frappé par ce dépouillement et croit n'avoir affaire qu'à des murs gris dépourvus de tout ornement. Interprétation parfaitement légitime de son point de vue, mais qui prouve qu'il n'a point percé l'énigme de l'ombre. Quant à nous, non contents de cela, à l'extérieur de ces pièces où les rayons du soleil ne pénètrent déjà que très difficilement, nous projetons un large auvent, nous établissons une véranda pour éloigner davantage encore la lumière solaire. Et dans l'intérieur de la pièce enfin, les shoji ne laissent entrer de la lumière envoyée par le jardin qu'un reflet tamisé. Or, c'est précisément cette lumière indirecte et diffuse qui est le facteur essentiel de la beauté de nos demeures. Et pour que cette lumière épuisée, atténuée, précaire, imprègne à fond les murs de la pièce, ces murs sablés, nous les peignons de couleurs neutres, à dessein. Si l'on use en effet de peintures brillantes pour les chambres fortes, les cuisines ou les couloirs, les murs des pièces d'habitation sont presque toujours sablés et bien rarement luisants. Car s'ils étaient luisants, tout le charme subtil et discret de cette lumière indigente s'évanouirait. Nous nous complaisons dans cette clarté ténue, faite de lumière extérieure d'apparence incertaine, cramponnée à la surface des murs de couleur crépusculaire et qui conserve à grand-peine un dernier reste de vie. Pour nous, cette clarté-là sur un mur, ou plutôt cette pénombre, vaut tous les ornements du monde et sa vue ne nous lasse jamais. Pour tout dire, mon intention en écrivant ce qui précède était de poser la question de savoir si, dans telle ou telle direction, par exemple dans les êtres ou les arts, il ne subsistait pas quelques moyens de compenser les dégâts. Pour moi, j'aimerais tenter de faire revivre dans le domaine de la littérature, au moins, cet univers d'ombre que nous sommes en train de dissiper. J'aimerais élargir l'auvent de cet édifice qui a non littérature, en obscurcir les murs, plonger dans l'ombre ce qui est trop visible et en dépouiller l'intérieur de tout ornement superflu. Je ne prétends pas qu'il faille en faire autant de toutes les maisons, mais ce serait bon, je crois, qu'il en reste ne fût-ce qu'une seule de ce genre. Et pour voir ce que cela peut donner, eh bien, je m'en vais éteindre ma lampe électrique. Arc-en-ciel, sous l'arc des nuages durcis, au bruit des voix qui s'abandonnent, sur les trottoirs blancs et les rails, à travers les branches du temps, j'ai regardé passer ton ombre, seule entre les signes obscurs, les traits de lumière mouvants transparents au reflet des fausses devantures. Et elle allait, jamais tu n'as marché si vite. Je me rappelais ta figure, mais elle était beaucoup moins grande, et puis je regardais ailleurs, mais pour te retrouver encore dans les échos de jour roulant dans ma mémoire. Des fils de souvenirs s'accrochent dans les branches, des feuilles dans l'air bleu planent à contrevent. Un ruisseau de sang clair se glisse sous la pierre, les larmes et la pluie sous le même buvard, puis tout se mêle au choc d'enlouettes plus épaisses, dont les chevaux du sort le cœur perd son chemin. Toujours le même qui s'arrête, toujours le même qui revient. Le soleil s'éteignait, je regardais plus loin, les traces de tes pas brodées d'or dans la poussière, et tout ce qui n'était pas là dans les flammes du soir qui dévorent la terre. Nous avons marché longtemps sur la plage. Le soleil était maintenant écrasant. Il se brisait en morceaux sur le sable et sur la mer. J'ai eu l'impression que Raymond savait où il allait, mais c'était sans doute faux. Tout au bout de la plage, nous sommes arrivés enfin à une petite source qui coulait dans le sable, derrière un gros rocher. Là, nous avons trouvé nos deux Arabes. Ils étaient couchés, dans leur bleu de chauffe graisseux. Ils avaient l'air tout à fait calmes et presque contents. Notre venue n'a rien changé. Celui qui avait frappé Raymond le regardait sans rien dire. L'autre soufflait dans un petit roseau et répétait sans cesse, en nous regardant du coin de l'œil, les trois notes qu'il obtenait de son instrument. Pendant tout ce temps, il n'y a plus eu que le soleil et ce silence, avec le petit bruit de la source et les trois notes. Puis Raymond a porté la main à sa poche revolver, mais l'autre n'a pas bougé, et il se regardait toujours. J'ai remarqué que celui qui jouait de la flûte avec les doigts, des pieds très écartés. Mais sans quitter des yeux son adversaire, Raymond m'a demandé « Je le descends ?» J'ai pensé que si je disais non, il s'exciterait tout seul et tirerait certainement. Je lui ai seulement dit « Il ne t'a pas grand parlé. Ça ferait vilain de tirer comme ça. » On a encore entendu le petit bruit d'eau et de flûte au cœur du silence de la chaleur. Puis Raymond a dit « Alors, je vais l'insulter. Quand il répondra, je le descendrai. » J'ai répondu « C'est ça. Mais s'il ne sort pas son couteau, tu ne veux pas tirer. » Raymond a commencé à s'exciter un peu. L'autre jouait toujours et tous deux observaient chaque geste de Raymond. « Non, ai-je dit à Raymond, prends-le d'homme à homme et donne-moi ton revolver. Si l'autre intervient ou s'il tire son couteau, je descendrai. » Quand Raymond m'a donné son revolver, le soleil a glissé dessus. Pourtant, nous sommes restés encore immobiles comme si tout s'était refermé autour de nous. Nous nous regardions sans baisser les yeux et tout s'arrêtait ici entre la mer, le sable et le soleil, le double silence de la flûte et de l'eau. J'ai pensé à ce moment qu'on pouvait tirer ou ne pas tirer. Mais brusquement, les Arabes à reculons se sont collés derrière le rocher. Raymond et moi sommes alors remis sur nos pas. Lui paraissait mieux, il a parlé de l'autobus du retour. Je l'ai accompagné jusqu'au cabanon, et pendant qu'il gravissait l'escalier de bois, je suis restée devant la première marche, la tête retentissante de soleil. Découragée devant l'effort qu'il fallait faire pour monter l'étage de bois et aborder encore les femmes. Mais la chaleur était telle qu'il m'était pénible aussi de rester immobile sous la pluie aveuglante qui tombait du ciel. Rester ici ou partir, cela revenait au même. Au bout d'un moment, je suis retournée vers la plage et je me suis mise à marcher. C'était le même éclatement rouge. Sur le sable, la mer haletait de toute la respiration rapide et étouffante de ces petites vagues. Je marchais lentement vers les rochers et je sentais mon front se gonfler sous le soleil. Toute cette chaleur s'appuyait sur moi et se posait à mon avance. Et chaque fois que je sentais son grand souffle chaud sur mon visage, je serrais les dents. Je fermais les poings dans les poches de mon pantalon. Je me tendais tout entier pour triompher du soleil et de cette ivresse opaque qu'il me déversait. À chaque épée de lumière, jaillie du sable, d'un coquillage blanchi ou d'un débris de verre, mes mâchoires se crispaient. J'ai marché longtemps. Je voyais de loin la petite masse sombre du rocher entourée d'un halo aveuglant par la lumière et la poussière de mer. Je pensais à la source fraîche derrière le rocher. J'avais envie de retrouver le murmure de son eau, envie de fuir le soleil, l'effort et les pleurs des femmes, envie enfin de retrouver l'ombre et son repos. Mais quand j'étais plus près, j'ai vu que le type de Raymond était revenu. Il était seul. Il reposait sur le dos, les mains sur la nuque, le front dans les ombres du rocher, tout le corps au soleil. Son bleu de chauffe fumait dans la chaleur. J'ai été un peu surpris. Pour moi, c'est une histoire finie et j'étais venue là sans y penser. Dès qu'il m'a vu, il s'est soulevé un peu et a mis la main dans sa poche. Moi, naturellement, j'ai serré le revolver de Raymond dans mon veston. Alors de nouveau, il s'est laissé aller en arrière, mais sans retirer la main de sa poche. J'étais assez loin de lui, à une dizaine de mètres. Je devinais son regard par instant entre ses paupières mi-closes. Mais le plus souvent, son image dansait devant mes yeux, dans l'air enflammé. Le bruit des vagues était encore plus paresseux, plus étal qu'à midi. C'était le même soleil, la même lumière sur le même sable qui se prolongeait ici. Il y avait déjà 2 heures que la journée n'avançait plus, 2 heures qu'elle avait jeté l'ancre dans un océan de métal bouillant. À l'horizon, un petit vapeur est passé, et j'en ai deviné la tache noire au bord de mon regard, parce que je n'avais pas cessé de regarder l'Arabe. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire, et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source, l'Arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman. Et comme alors, le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas, mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'Arabe a tiré son couteau qui m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier, et c'était comme une longue lame étincelante qui m'éteignit au front. Au même instant, La sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes de ciel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et indistinctement le glaive qu'à temps j'avais du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Et il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. Nagash a cédé. J'ai tourné le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. C'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Amour de Paris. L'année de mon premier amour, de mon grand amour, ce fut l'année même des horloges lumineuses. Ce fut cette année-là que dans mon haut carrefour, on les dressa avec un grand feu intérieur, et Paris ne fut qu'une clarté radieuse, clarté qui m'était due. Par la suite, il y a plus 3 jours sur 3, dans l'humide et l'obscur, on marcha le long de la Seine, mais c'est les des heures dont je me souviens, ce sont celles qui furent gravées par le dedans, avec du noir sur du blanc légendaire, avec du noir à ne pas dire.
Let me feel your lips press against my cheek. Let me feel your arms around. No one but me. Say sweet things to me, and we'll
Sol, est-ce que tu connais César Vallejo ?
Ah oui, non, je ne connais pas.
C'est un pote péruvien qui est mort à Paris en 1938, avant la fin de la guerre d'Espagne. C'est un pote qui a écrit un poème très connu hein, qui s'appelle « Espagne, aparta de mí este cáliz », ou en français « Espagne, écarte de moi ce calice ». Voilà, donc c'est un pote que j'aime beaucoup, que j'ai étudié quand j'étais au lycée, ici d'ailleurs. Et je voudrais lire un poème de lui. « Tous les jours, je me lève à l'aveuglette afin de travailler pour vivre. Et je prends le petit déjeuner sans en boire une seule goutte tous les matins. Sans savoir si j'ai obtenu, ou jamais davantage, quelque chose qui se dégage de la saveur, ou est simplement cœur, et qui, une fois revenu, déplorera de voir à quel point cela est peu. L'enfant grandirait gavé de bonheur, ô aurore, ô désespoir des parents de ne pouvoir cesser de nous arracher de leurs rêves d'amour pour ce monde. Eux présents qui, comme Dieu de tant d'amour, se pénétrèrent à en être créateurs, et qui nous aimèrent jusqu'à nous faire mal. Franges à la trame invisible, dents qui furettent depuis l'émotion neutre, pilier dépourvu de base et de couronnement dans la grande bouche qui a perdu la parole. Allumette après allumette dans l'obscurité, larme après larme dans le nuage de poussière.
Nathalie ?
Dis-moi.
Tu te souviens, lors de notre première émission sur la nuit, on a écouté un morceau de la première période de Pulp qui s'appelait Good Night.
Ouais, j'adore, ouais.
Et donc l'année dernière, le chanteur de feu Pulp, Jarvis Cocker, a sorti avec le pianiste Chili Gonzalez un album qui s'appelle Room 29. Alors de quoi parle ce disque ? On traite avec beaucoup d'intelligence et de poésie du Château Marmont, le fameux hôtel des stars de cinéma de l'âge d'or d'Hollywood. Et donc dans ce disque, Jarvis Cocker il chante Howard Hughes, le célèbre producteur qui s'enfermait dans sa suite royale tout en haut de l'hôtel et qui depuis sa fenêtre repérait au télescope ses prochaines stars féminines qui pendant ce temps se prélassaient au bord de la piscine. Et l'album parle aussi de la sublime Jean Harlow, de Clara Clemens, mais surtout du lien qu'a entretenu tout ce monde magique d'illusions et de glamour avec et ses protagonistes et ses spectateurs. Les déceptions de l'illusion aussi. Le disque est truffé de chansons magnifiquement bien écrites. Et alors, j'ai eu la chance de travailler l'été dernier comme régisseur plateau sur des représentations de ce spectacle à la Philharmonie de Paris.
Non.
Ben si.
Wow.
Donc c'est un spectacle vraiment absolument génial. Et dans lequel on se régale à voir Jarvis Cocker, même dans un répertoire plus calme, être toujours le chanteur plein d'esprit, absurde, sexy et rock'n'roll qu'on a tant aimé au sein de Pulp. On va donc écouter la chanson Trick of the Light, qui parle justement des illusions de ce cinéma de l'âge d'or, ce jeu de lumière dont le protagoniste chanté par Jarvis Cocker est tombé éperdument amoureux.
And angels, bikers and truckers, creatures of the night and lousy cocksuckers, kings and queens and sons and lovers, shoving the lens under the covers. I reached out to touch, but you can't touch a trick of the light. A trick of the light. Well, I wasted my life on a trick of the light. Yeah, yeah, tricked me all right. Yeah, trick of the light. But I could have sworn you were looking straight at me. I could have sworn you were speaking my language. I lost it all. I lost it for good. I lost my wife, but that's Hollywood. I lost it all, thrown away on this trick of the light. Magic box, upon which life leaves a stain, which we can watch again and again. Oh, you taught us to kiss, taught us so many things. Would you mind if I ask, when do we get to join in? A magic window, a most marvelous confection. But windows are for looking through, not for checking out your reflection. I'm not crying, I just got something in my eye. Oh, it's a trick of the light. I'm completely alright. It's just a trick of the light. I'm waving goodbye to the love of my life. Oh, what a surprise. The love of my life was a trick of the light.
Thank you.
fugitive. Elle ondule sur la vallée et je n'ai rien pu conserver. Je l'ai laissée filer sur les paysages tranquilles. Comme je regrette. Sous les feuilles, je lèche les restes de sa chaleur. J'imagine les tropiques et trompe mon corps. Amérique. Tu contredis mes attentes du lendemain et déserte encore une fois. Laisse-moi t'expliquer ce que tu es devenu pour moi. Sortie de brouillard, tout à coup le soleil et un air dansant sur une pelouse d'hiver. J'accours sur le verre comme la lumière se précipite dans l'océan, chantante. Contre l'enceinte à plein volume, je danse près d'un homme allongé. Pourquoi ne se relève-t-il pas ? Toit de tuiles rouges, un chat lèche la rosée par une aube humide. Le soleil se couche, un melon vert s'est fendu et répand son jus. Un soleil aveuglant réduit l'éclat de la mer et la taille des bateaux. Les montagnes laissent le soleil couchant passer de l'autre côté.
Nathalie ?
Oui ?
Tu sais, en, En 2011, je suis allé à Rome pour faire des repérages, pour écrire le scénario d'une bande dessinée. Tu sais, la bande dessinée,
oui,
La Lionne, que j'ai faite
en
donc avec Laureline Mathiussi, en deux tomes. Et donc, lors de notre séjour, j'avais repéré que le chanteur écossais Aidan Moffat, qu'on connaît notamment comme chanteur du groupe Arab Strap, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, il donnait un concert pour son nouvel album avec le musicien Bill Wells. Donc on a décidé d'y aller parce que j'aime beaucoup ce que fait Aidan Moffat. Mm-hmm. Et donc, après s'être perdu dans des quartiers sombres de Rome, assez inquiétants, on a finalement trouvé le lieu où il jouait. Et on a vu un concert absolument magnifique. Et j'avais vraiment tous les poils du corps dressés tout le long du concert. J'ai acheté le disque à la sortie. Et le lendemain, ouais, je suis parti faire des repérages place du Forum avec un magnifique soleil romain nous surplombant. Et cette chanson lumineuse, The Greatest Story Ever Told, en boucle dans mes oreilles. Chanson pour moi à tout jamais liée à la lumière de Rome.
Somewhere unseen and deep inside, the lucky sperm and egg collide. The zygote's little cells divide. The morula goes for the ride. This tiny tryst makes blastocyst, and soon the mind and heart exist. And then you arrive with the plenty of people will try and tell you where we came from, but we can only ever know what we can see. So tonight, look up to the sky. There's at least 100 billion galaxies with 100 billion stars, and every single one could be a sun just like ours. You see, we're all just links in a chain, and all life is finite. So use your time wisely, look after your teeth, and try not to hurt anyone. And remember, we invented love, and that's the greatest story ever told.
Par ordre de lecture, vous avez écouté des textes de le poète Jacques Prévert, l'astronaute Patrick Baudry, l'écrivain japonais Junichiro Tanizaki, le poète Pierre Reverdy, l'écrivain Albert Camus, le poète Armaine Dubin, le poète péruvien César Vallejo, la poétesse Natalie Mann, le poète américain Richard Wright.
On a écouté des morceaux de Julie Cruz, The Rocky Horror Picture Show, Midori Takada, The Subsonics, Electro Lane, A Silver Mount Zion, The Paragons, Jarvis Cocker and Chili Gonzalez, Elvis Presley, Ennio Morricone, Bill Wells and Aidan Moffat. C'était ici même. Vous pouvez nous écouter tous les troisièmes lundis du mois sur la clé des ondes 90.1 de 20h à 21h.
On se retrouve le mois prochain.